Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Maître Corinne Hermann, vous avez été pendant ces interminables années pour sortir ce dossier de l'ornière aux côtés des familles des sept jeunes filles, en tant que juriste d'abord au cabinet de Pierre Gonzalez de Gaspard, depuis vous êtes devenue avocate. Au procès, c'est la première fois que vous le voyez.
Oui, en tout cas, c'est la première fois qu'on échange directement, oui.
Quelle impression est-ce qu'il vous fait ? Vous nous l'avez dit à l'issue du premier épisode, cette affaire hante votre vie. Et tout d'un coup, elle s'incarne dans ce bonhomme qui est en face de vous. Ça fait quel effet ?
Impressionnant, parce que d'abord il a un regard perçant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une masse qui se déplace, il est trapu, il y a une force en lui qui est quand même impressionnante pour nous qui ne risquons rien quand même. Et très aux aguets, il nous observe, on sent qu'il est prêt au combat et on sent une détermination et une force qu'on a dû affronter ces pauvres victimes justement.
Les familles des sept victimes, il les regarde ou il les ignore ?
Non, il les observe, il les analyse, il observe tout le monde, il analyse tout le monde. La plupart des psychopathes agissent de cette façon-là. Ils aiment maîtriser, même jusqu'à l'audience et pendant l'audience, maîtriser l'environnement, maîtriser tout le monde. Il nous connaît, il sait qui on est, il nous connaît tous et il nous analyse tous.
Je voudrais qu'on parle de ce qu'il appelle la bestiole. Autrement dit, des pulsions qu'il ne pourrait pas, qu'il ne saurait pas contrôler. Vous êtes avocate, il n'est pas le premier à invoquer en tant que pédophile ces pulsions incontrôlables. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'elles soient incontrôlables ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que pour lui, elles étaient incontrôlables. Cette bestiole, c'était une émanation de lui, c'était cette autre part de lui, cette part d'ombre de lui. Et quand on n'a pas forcément les mots pour dire les choses, c'était sa façon à lui de parler de cette part d'ombre, de ces moments pulsionnels qu'il ne maîtrisait pas. Oui, moi je crois que je me suis beaucoup interrogée longtemps. On voit que Francis Holmes fait la même chose en disant qu'il voit rouge. Ils essayent néanmoins de communiquer et de nous expliquer. Et cette bestiole, c'était la meilleure façon pour lui d'expliquer les choses. C'est aussi un aveu en parlant de cette bestiole. C'est quand même lui. Voilà, ça émane de lui, c'est lui, cette bestiole, c'est lui.
Ça n'est pas le seul point sur lequel Émile Louis essaye d'attirer l'attention. Il dit donc « j'ai des pulsions ». Il dit aussi « tout petit, j'ai été traumatisé par la tonte de mes trois sœurs, par les résistants, sœurs qui avaient collaboré, enfin couché avec des Allemands ». C'est le sort qui a été réservé à beaucoup de ces jeunes femmes à l'époque. Il chic ou vous admettez que ça a pu le traumatiser ?
Ah oui, d'autant que c'est lui qui les a dénoncés, que c'est lui qui a amené les résistants à leur cachette. Donc, vous savez, avec Émile Louis, il y a toujours une part de vérité, et puis il y a une part de mensonge, et il faut connaître parfaitement sa vie. C'est ce qui a été un peu le calvaire de cette affaire, c'est de se plonger totalement dans son histoire, dans sa vie, pour savoir dénouer tous ces mensonges qui étaient basés sur des réalités. Donc oui, ces sœurs ont été tendues. Oui, elles ont été tendues à la libération, mais c'est lui qui les a amenées, c'est lui qui a amené les résistants à ses sœurs, et je pense que c'était un passif lourd à porter.
Autre chose, c'est donc un enfant de la DAS, lui aussi. Il a été abandonné à la naissance, lui aussi. Et il a été violé en colonie de vacances, lui aussi. Est-ce que ça peut, selon vous, expliquer ce que le bonhomme est devenu ?
Pour partie, ça explique ce qu'il est devenu, mais dans l'histoire de ses enfants, on ne retrouve pas toujours les raisons de leurs actes. Je pense aussi qu'il y a une psychologie, qu'il y a aussi quelque chose qui est préexistant. Je pense, par contre, ce qu'on retrouve dans leurs actes, c'est la trace de ce qu'ils ont vécu ou qu'ils pensent avoir vécu. En réalité, il aurait été violé alors qu'il était placé en maison de redressement à la suite de l'incendie qu'il avait allumé. Et je pense que la double punition pour lui d'être attouché, ça je ne le mets pas en doute, et d'être détenu finalement d'une certaine façon, retenu, a dû être à la base des actes qu'il a commis par la suite. Oui.
On est d'accord qu'il n'y a pas de grand tueur sans histoire familiale et sans enfance gâchée.
Comme vous le savez, j'ai pas de la langue de bois. J'en ai vu beaucoup. Je suis pas convaincue de ça. Je pense aussi qu'il y a un caractère, un fonctionnement. Le fonctionnement d'une famille, ça peut effectivement générer des troubles, mais Néanmoins, je dirais que heureusement, tous les enfants qui ont des enfants se...
Oui, j'inverse pas les facteurs, choses, on
voilà,
est d'accord.
Voilà,
oui.
C'est ça. Oui. Voilà, je pense qu'il y a des capteurs en plus, qu'il y a encore des choses en plus de certaines souffrances. Émile-Louis n'a pas été plus malheureux que d'autres enfants de la guerre. Et on voit que, par exemple, Michel Fourniret aussi se sert de la guerre pour expliquer ses actes. Mais tous les enfants de la guerre ne sont pas devenus des tueurs en série.
Venons-en au témoignage de sa fille qui est assez déterminant. Elle lui porte un coup fatal et donc elle dit « J'ai été brutalisée, violée ainsi que ma mère ». Et elle raconte une histoire stupéfiante. Elle dit qu'elle a vu son père éventrer une jeune fille dans les bois, devant elle. Et il n'y a pas eu de suite à cette histoire. Elle est restée un peu suspendue. Vous y croyez ?
Non. Je vous ai dit que je n'avais pas la langue de bois. Non, et ça n'a pas été déterminant. Ça n'a pas été déterminant, ça a même été largement écarté des audiences. Non, en tout cas, il n'y a pas d'éléments. Bien sûr qu'il a tué ces jeunes filles et qu'il a pu en tuer d'autres. Mais nous n'avons pas de correspondance entre ce que dit Marilyn, sa fille, et les actes qu'on connaît, en tout cas les affaires qu'on connaît. On connaît d'autres affaires où on suspecte l'implication d'Émile Louis, qui n'ont pas été jugées parce qu'on a soutenu qu'ils étaient prescrites ou parce que la justice n'a pas voulu le faire. Néanmoins, elles ne correspondent pas à l'histoire qui
a été racontée. Aucune
n'a
été éventrée. Elle est probablement dans cette espèce de faux souvenir, dans quelque chose qui relève du traumatisme.
Oui.
Alors, l'histoire de la prescription, parce que je dis qu'effectivement les gendarmes en jouent pour lui faire avouer, mais en même temps, une fois qu'il a avoué, il saute aux yeux que peut-être il y a véritablement prescription. À ce moment-là, vous avez des sueurs froides, non ?
Ah, on frôle la catastrophe, oui, tout à fait. On le savait depuis le début qu'on avait ce risque-là et qu'il pouvait sortir libre. Pour nous, en tant que juristes, on pensait qu'on avait plusieurs éléments qui pouvaient permettre d'écarter la prescription, mais on a frôlé la catastrophe et évidemment, les chroniqueurs judiciaires et beaucoup d'avocats ont pris la parole pour dire que c'était prescrit. Heureusement qu'il y avait cet acte qui a été d'ailleurs créé à l'initiative de Pierre Monnoir, qui est le président de l'Association des victimes de Lyon, puisqu'il est allé rencontrer le parquet qui avait fait une demande de renseignement.
Mais volontairement, acte... pour éviter la prescription, dans l'esprit de Monnoir ?
Non, il voulait savoir ce qu'étaient devenues ces jeunes filles, si elles avaient véritablement disparu. Et c'est cet acte-là, cet acte unique...
Qui vient interrompre la prescription.
Voilà. Qui va nous sauver et qui vous sauve beaucoup de dossiers, puisque cet acte, cette jurisprudence Émile Louis nous a sauvé aussi le dossier Fourniret et d'autres dossiers.
On a retrouvé, Corinne Herman, que deux corps, pourquoi pas les sept ?
Alors, il y a plusieurs explications. Savoir que c'était une terre sableuse qui a pu disparaître au fil des crues du Serein, puisqu'il y avait ce petite rivière, ce petit ruisseau avait vraiment de très très grandes crues. Et comme c'était une terre très meuble, les corps ont pu être emportés à l'occasion de crues. On sait aussi que les animaux, les phénomènes de la nature font que des corps peuvent disparaître. On a une certitude en tous les cas, c'est que le nombre de valises, de vêtements de jeunes femmes, de tailles différentes, qui ont été retrouvées, correspondent en tout cas à plusieurs jeunes filles, et voire à ces sept jeunes filles. Certains éléments ont été reconnus par les familles, même si on n'a pas les corps. Donc ça suffisait pour l'impliquer pour les sept corps. Probablement que les modifications du terrain ont fait qu'on n'a pas trouvé ces corps.
Alors les trois magistrats, enfin les magistrats en règle générale qui ont déshonoré la justice dans ce dossier, on découvre qu'ils n'ont pas été sanctionnés, en tout cas que leur sanction a été annulée par le Conseil d'État. C'est incroyable, cette impunité.
Que dire, nous sommes scandalisés par cela. Au moins ils ont dû quand même répondre publiquement lors d'un procès, d'une sorte de procès par le CSM.
Le Conseil supérieur de la magistrature.
Voilà, mais que dire, nous avons des magistrats encore aujourd'hui qui envoient promener les familles quand elles ont quelque chose à dire, qui ne font pas le travail comme on le voit dans plusieurs affaires. Que dire, c'est pour moi l'élite, la magistrature doit être l'élite, elle doit être à l'écoute des plus faibles, elle doit être à l'écoute des familles, c'est son rôle et ça a été tout le contraire dans cette affaire.
Et on en profite pour souligner que quand on est comme ça, victime, et qu'on se sent un peu faible pour affronter la justice, le bon réflexe c'est de prendre un avocat.
C'est nécessaire parce que nous connaissons tous les rouages de la justice. Il faut être épaulé dans ces combats. Ils sont longs, ils sont difficiles. Ils remettent en cause toute votre vie, ils remettent en cause tout votre environnement. Il faut être épaulé par des professionnels et par des associations.
J'ai une dernière question pour vous, Corinne Herman. Donc, je l'ai dit, au moment de cette affaire, vous êtes juriste au cabinet de González de Gaspar. Ensuite, vous passez juriste au cabinet de Maître Seban. Et aujourd'hui, vous êtes avocate. Est-ce que c'est grâce à l'affaire Émile Louis ?
Oui, en grande partie. Oui, en grande partie parce que ce n'était pas un métier auquel je me destinais et que cette affaire a bouleversé ma vie. L'injustice de cette affaire, la souffrance des familles, mais aussi tous les échanges qu'on a eus avec eux, humains, riches humainement, avec Pierre Monnoir, avec certains enquêteurs, avec les journalistes qui nous ont aidés, ont fait que naturellement, j'ai eu envie de continuer à aider des familles et ça a effectivement été à l'origine de ce que je fais aujourd'hui.
Je vous remercie infiniment, Corinne Hermann. Je vous embrasse sur les deux joues. Vous avez été dans ce dossier quelqu'un de formidable et en règle générale, vous êtes quelqu'un de formidable.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.